Patricia, la chronique, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour, auditeurs et auditrices de RLP, ma radio préférée. Aujourd'hui, jeudi 23 janvier 2025, le temps est mitigé, mais en ce moment, un beau soleil est au-dessus de la radio. Mon humeur est tranquille, voire joyeuse. Et je suis accompagnée à la technique par Antoine. J'espère que cette année commence pour vous sous les meilleurs auspices et que 2025 sera pour vous l'occasion de voir vos rêves se réaliser dans la santé, le bonheur et l'amour. Pour cette 11e chronique, je vais vous parler de moutons. Ben oui, non pas l'ovin connu, mais plutôt de sa métaphore. Et je préfère de loin être un loup solitaire plutôt qu'un mouton. Cette chronique s'intitule donc « Le mouton noir ». Elle aurait pu aussi s'appeler « Le vilain petit canard ». Alors pourquoi plus mouton que canard ? Eh bien parce que dans « Vilain petit canard », il y a vilain et que j'aime le beau. Aussi parce que le mouton noir est noir et que justement j'aime cette couleur trop souvent rejetée. Le mouton noir aussi parce que c'est un excellent restaurant à verre que je vous recommande. Joss en cuisine est un super chef qui saura titiller vos papilles et Claire en salle est vraiment très agréable et hyper sympa. Un très bel endroit où il fait bon se faire plaisir. Le mouton noir est une métaphore désignant une personne considérée comme marginale dans un groupe. L'expression « mouton noir » tire son origine du contraste entre la proportion de moutons blancs, habituels et majoritaires, et de moutons noirs, généralement minoritaires, dans les troupeaux d'ovins. L'expression française correspondante est « brebis galeuse ». Elle désigne un animal malade, porteur ou non de la gale, que l'on tenait à l'écart du troupeau afin de prévenir tout risque de contamination. Au sens figuré, l'expression désigne en fait une personne dont les opinions et le comportement sont jugés déviants et qui sont tenus à l'écart de la communauté. Ce terme est aussi utilisé pour désigner les dynamiques négatives qui peuvent survenir au sein d'un environnement familial et sont généralement attribuées à une seule personne de la famille, ce qui engendre un traitement différent du reste de la fratrie, des qualificatifs offensants ou dégradants, des punitions disproportionnées, pas ou peu d'intérêt à savoir qui vous êtes au-delà du superficiel et des critiques incessantes sur votre personnalité ou vos capacités naturelles. C'est lourd, hein ? Et je vous parle de mouton noir parce que je l'ai été au sein de ma famille dysfonctionnelle. Dès mon plus jeune âge, je ne me suis pas senti à ma place dans ma famille, comme s'il y avait eu une erreur de casting, un bug dans la matrice. Il y avait beaucoup de violence, il y avait de l'alcoolisme, une mère défaillante, des enfants livrés à eux-mêmes ou sous la responsabilité de l'aîné, un milieu toxique, anxiogène, sans communication, si ce n'est des insultes, des humiliations, voire l'innommable. Enfant têtu et révolté, mon obstination à vouloir comprendre certaines attitudes, certains non-dits. Mon obstination, donc, était monnaie courante et j'ai toujours eu du mal avec l'autorité, surtout l'autorité abusive. Et je ne me contentais pas de faire des choses, tout simplement parce qu'on s'attendait à ce que je les fasse. Ce n'est pas parce que ce sont des adultes qu'ils savent forcément mieux. J'étais celle qui posait les questions dérangeantes. Par exemple, ma mère s'étant remariée, je ne comprenais pas pourquoi je devais absolument appeler mon beau-père « papa », puisque le mien, je l'avais connu, il était mort. Voilà, un exemple. J'étais une épine dans leurs chaussures. Effrontément têtue, j'ai reçu bon nombre de volets de bois vert. Têtue, révoltée, obstinée, je voulais aussi faire des études, apprendre un vrai métier. Chez moi, il fallait travailler le plus tôt possible, gagner rapidement de l'argent. Argent, il va sans dire, qui servait peu au bien commun. Très jeune, j'étais aussi sensible aux injustices. J'en faisais souvent les frais, d'ailleurs. Les notions de solidarité, d'entraide, prenaient aussi tout leur sens. Bonne élève, j'étais curieuse et posais beaucoup de questions. Les conditions de vie rendaient compliquée mon envie d'étudier. Je ne pouvais pas, par exemple, aller à la bibliothèque emprunter un livre. Livre qu'il n'y avait pas d'ailleurs chez moi, sauf peut-être nous deux. Consciente que mon devenir était remis en question dans de telles circonstances, j'ai décidé à 13 ans de quitter le milieu délétère de ma famille. J'ai demandé de l'aide et j'ai été entendue par des professeurs de mon collège. Les services de l'ASE, aide sociale à l'enfance, aussitôt alertés, il y a eu enquête. Après celle-ci, il m'a été alors proposé un placement au foyer ou en famille d'accueil. Fort heureusement pour moi, mes grands-parents maternels se sont portés volontaires et m'ont accueilli chez eux. Ce qui, bien sûr, a fait grand bruit dans la famille. Rupture, il y a eu, et elle dura longtemps. Jusqu'au décès de ma mère, qui n'aura jamais connu ma fille. J'ai été très affectée par ces traitements particuliers, parce qu'incomprise au sein du noyau familial, je me suis toujours sentie seule dans la vie. J'ai eu du mal à établir des relations avec les autres. Et surtout, j'ai souffert d'un manque de confiance et des problèmes d'estime de moi. Tout cela accompagné d'anxiété sociale, de crises existentielles et de conduites addictives. Bref, les signes typiques de quelqu'un qui est mal dans sa peau, dans son corps et dans sa tête. Mais depuis, je vous rassure, je vais beaucoup mieux. Et d'ailleurs, si vous avez écouté mes précédentes chroniques, vous aurez pu le constater et vous savez comment j'y suis enfin parvenue. J'ai essayé de renouer les liens, de retisser les fils fragiles de la fratrie. Mais nos relations restent superficielles. Même s'il y a de l'amour, nous sommes trop différents et nos idées divergent sur l'ensemble de mes croyances, sur l'ensemble de ma façon de vivre et de consommer. Je ne peux, hélas, ni les changer, ni changer la dynamique qui est la leur. Par contre, je peux abandonner cette étiquette de mouton noir et recevoir l'appréciation que je mérite. Aujourd'hui, je me perçois comme un jardinier. J'ai cultivé ma petite parcelle de terre et j'y ai planté un bel arbre fruitier. Et comme le dit Bert Hellinger, et pour l'information, Bert Hellinger est un prêtre et psychothérapeute allemand qui a beaucoup travaillé sur tous les traumas liés au sein des familles et qui a mis en place d'ailleurs quelque chose qui s'appelle les constellations familiales. Les constellations familiales sont en quelque sorte des jeux de rôle où l'on apprend à dénouer tous les traumas qui se sont joués dans l'enfance, mais qui sont liés aussi à des traumas plus anciens qui se révèlent dans l'arbre généalogique. Donc Bert Hellinger nous dit cette phrase incroyable. Je donne à mon arbre généalogique la possibilité d'avoir de nouvelles branches. Il nous apporte aussi cet éclairage magnifique qui redonne à chacun ou chacune qui se sent concerné par ce syndrome de mouton noir, non seulement une place dans la lignée, mais la noblesse d'une destinée. Et il dit ceci, ces brebis noires réparent, désintoxiquent et créent une nouvelle branche pleine de fleurs dans l'arbre généalogique. Sa rébellion est terre fertile, sa folie est eau qui nourrit, son entêtement est air nouveau, sa passion est le feu qui rallume le cœur des ancêtres. Mais qui apporterait de nouvelles fleurs à notre arbre, sinon elle ? C'est beau. Je dédie cette chronique à ma fille et à tous les moutons noirs. Et je rajouterai, vous êtes le rêve de tous vos ancêtres. Et nous allons nous quitter en écoutant Des fêtes de famille d'Orelsan. Merci de m'avoir écouté.
T'es sûr que c'est intéressant ce que tu filmes ?
C'est un montage.
Ah cool, pour mamie ?
Non, pour YouTube. Si tu fais 1 million de vues, ils te donnent 3000 euros.
Hey, rappeur de la famille, il nous ferait 10 points, un petit rap. Au second flot.
Ok.
Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triso. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec pourrait préfère danser avec le chien. Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Et parce que j'en peux plus d'entendre les plaques de cul des parents, je crois que papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux. Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons dans une ambiance d'installation militaire imposée par le
Julien, par l'horizontale, le frigo va devoir attendre 24 heures pour le rallumer.
Qu'est-ce que tu fous dans le pass?
Tu sais quoi, va filmer tes grands-parents, ils seront peut-être plus là l'année prochaine.
Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion, me regardait porter des cartons en tripotant ma frangine toutes les 3 secondes. Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms. Parce que tata est le genre de crevarde qui lave les assiettes en carton. Tonton, si tu continues de faire yo-yo avec les doigts, chaque fois que tu passes à côté de moi, tu les utiliseras pour la dernière fois. Je t'en veux toujours pour quand j'étais petit et tu m'as secoué comme une pute. Si tu tenais à tes rétros, pourquoi tu t'es garé derrière le but? En parlant de pute, j'aimerais accueillir la nouvelle femme de Bruno. C'est Caro m'écoute plus, c'est qu'elle met au point son prochain raco. Pardonnez-la, elle serait pas comme ça si son mari la trompait pas. Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça. Je sais pas. Message à tous mes lointains cousins, venez on arrête de faire copain-copain. Parce qu'un ancêtre, on sait pas qui c'est, est la seule chose qu'on a en commun. Un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages et piller des baraques, à peu près à la même époque où papy baisait Jeanne d'Arc. D'ailleurs papy, raconte-nous la fois où t'avais 9 ans et t'as tué Hitler.
Là, le fils du Toubi me dit, Raymond, il y a le président qui fait de l'autostop. Il dit, je crois que t'en as un coup dans la gueule. Je regarde, je vois Mitran sur le bord de la route. Il nous dit, messieurs, j'ai un discours à faire à une demi-heure. On l'a sauvé la France.
T'as jamais été un héros, t'étais même pas un bon mytho. Mon héros, c'était toi, Nico. Mais depuis que tu t'es mis avec l'autre conne un peu bonne, t'es juste un vrai pauvre comme les autres. Merci Arnaud d'être venu te prendre en photo pour alimenter tes réseaux sociaux. Profiter d'être avec quelques prolos pour pouvoir encore plus jouer les bobos. Polo, si tu veux m'impressionner, c'est pas en roulant des joints compliqués, en utilisant beaucoup trop wesh pour un blondinet. Vu que ton père a un problème avec les Arabes, c'est une très belle ironie. Au passage, il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme. J'espère que Tati va bien attacher les mots, parce que son mari va rentrer au radar comme s'il avait une voiture autonome. Hey, salut, hein. J'avais plus de choses à vous dire, mais quand je vois vos gueules d'enculés bouffis, j'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porcs sur terre pour vous nourrir. J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires, la fête au village, il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos vrais visages. Mamie, je t'aime. À l'année prochaine.
Bon bah merci Aurélien pour la chanson. Allez, la fête n'est pas finie.
La chronique, le podcast qui vous veut du bien.